soir. Malgré la réhabilitation de certaines formations sanitaires dans la capitale, plusieurs hôpitaux de la RDC sont dans un état déplorable. Cas des cliniques kinoises et de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Pendant ce temps, les infirmiers plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Comment analyser cette situation et que faire pour y remédier? C'est notre thème de ce soir. Nos invités sont Dr Hippolyte Kalambaye, directeur en charge de la planification au ministère de la Santé publique du gouvernement central. Dr Kalambaye, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kibangula, président de la Ligue des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Monsieur Kibangula, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Docteur Jean-Baptiste Sondji, spécialiste en santé publique et ministre honoraire de la Santé, il va nous rejoindre dans un tout petit moment pour l'instant. Oui, on me signale que Dr Sondji est là. Dr Sondji, bonsoir. Dr Sondji, bonsoir. Voilà, je crois que ça va s'arranger. Entre-temps, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa a eu lieu le 22 mars dernier. Cet hôpital est considéré comme le mieux équipé du pays. Ses travaux de construction ont duré 2 ans et il a fallu attendre encore 2 autres années pour l'équiper. Dona Madimba.
L'hôpital du cinquantenaire se trouve dans la commune de Kasavubu, en face du camp Kokolo. C'est un hôpital dont l'histoire remonte à avant l'indépendance du pays. Le pouvoir colonial qui avait prévu le site pour un hôpital et un établissement de formation aux sciences infirmières n'eut pas le temps de réaliser son œuvre lorsqu'il remit la gestion du pays aux Congolais en 1960. Le régime Mobutu reprit l'idée à son tour, mais après avoir construit les 2 premiers bâtiments, abandonna l'idée. En 2009, Joseph Kabila a repris l'idée et aux 2 premiers bâtiments construits sous Mobutu, 3 nouveaux bâtiments seront construits et les 2 premiers réhabilités et proprement rafraîchis. À ce jour, l'hôpital inauguré compte au total 5 bâtiments principaux et quelques annexes. Il emploiera plusieurs dizaines de personnels. Comme matériel, il compte un scanner moderne de pointe, le nécessaire pour la mammographie, l'endoscopie et 5 blocs opératoires. On parle même bientôt de pouvoir y effectuer des opérations du cœur à cœur ouvert. Quant aux allégations comme quoi les bâtiments de l'hôpital sont construits sur un terrain qui va les engloutir à tout moment, les autorités ont encore répété ce jour que ce n'était là qu'une simple vue de l'esprit.
Dans quel état se trouvent les autres hôpitaux du pays? Dona Madimba, une fois de plus, nous amène à la clinique kinoise, un des hôpitaux de référence de la capitale.
La clinique kinoise. Très peu de gens à Kinshasa savent aujourd'hui s'il y a dans la capitale un hôpital avec ce nom-là. Et pour ceux qui le savent, très peu à ce jour connaissent ce que cet hôpital, pourtant fruit de la coopération avec le Danemark, est devenu. Pourtant, la clinique kinoise pour l'État est toujours officiellement en service, à la même adresse, c'est-à-dire avenue des cliniques non loin de l'OMS RDC et la clinique Ngalima, un des hôpitaux réputés du pays, est toujours ce même visage depuis sa naissance, à savoir un bâtiment principal de 4 niveaux et 2 annexes, le tout divisé en 2 blocs opérationnels, le bloc A, où sont actuellement logés le peu de services encore théoriquement opérationnels dans cet hôpital, et le bloc B, tombé totalement en ruine et déserté par l'hôpital au profit d'un certain nombre de bureaux sans logis dont on a eu du mal à dire s'ils étaient publics ou privés. Bref, il ne reste de cet hôpital que son personnel estimé à 700 voire 800 agents. Le reste de l'image n'est que ruine. Pas un seul malade observé en 3 heures passées dans ces lieux, pas une seule goutte dans les bâtiments. Il faut des seaux pour s'en procurer au rez-de-chaussée. Le personnel désintéressé est aussi empêché dans des conflits dont on perçoit tout de suite que des luttes de pouvoir sont passées par là.
Rendons-nous maintenant dans la province du Bas-Congo où Guy Roger Nyampala nous présente l'hôpital général de référence de Mwanda.
Cette institution hospitalière publique de Mwanda, située à près de 200 km à l'ouest de Matadi, a précisément une capacité théorique de 160 lits, selon le médecin chef de zone de santé de Mwanda, le docteur Kaimbi Bushidi. Outre la maternité et le service de chirurgie, l'hôpital général de référence de Mwanda dispose également des services de radiographie et d'échographie avec un personnel soignant dont le niveau est acceptable selon la même source. Alors qu'il est, le bâtiment de cet hôpital est en cours de réhabilitation et une morgue moderne sera inauguré ce jeudi sur place. Il se pose cependant de difficultés de plusieurs ordres. Cet hôpital ne dispose pas d'un service de dentisterie, pas de scanner. Il n'y a que 2 couvées sur 5 qui sont opérationnelles. À cela, il faut ajouter le problème du personnel soignant. La société civile de Mwanda évoque certaines mauvaises pratiques attribuées au personnel soignant de l'hôpital général de référence de Mwanda. Pour que l'on soit bien suivi, il faut toujours et chaque fois motiver ce personnel soignant en dehors de frais à payer. Enfin, il se pose le problème de gestion de cet hôpital. Récemment, 3 membres du comité de gestion de l'hôpital général de référence de Mwanda ont été suspendus pour malversation financière. Matadi, Guiroje Nyampala, Dialogue entre Congolais.
Merci Guy Roger Nyampala, docteur Hippolyte Kalambay. Vous êtes directeur en charge de la planification au ministère de la Santé publique du gouvernement central. Docteur, pour vous, quel état des lieux peut-on dresser des hôpitaux publics en RDC?
Merci monsieur le journaliste pour cette question combien pertinente. Ce que je peux dire, c'est que la plupart d'hôpitaux de notre pays sont des hôpitaux qui sont construits avant la période des indépendances. Il y en a environ 424 pour l'ensemble du territoire national. Et la situation politique, sociale et économique que le pays a connue depuis l'indépendance jusqu'au moment où nous avons eu des conflits armés n'a pas épargné le système de santé, et notamment le système hospitalier en particulier. C'est ce qui fait que pour le moment, les hôpitaux dans notre pays ont été plus ou moins le parent pauvre du système de santé. C'est pour cela que le gouvernement actuel s'est investi dans l'équipement et la réhabilitation de l'hôpital et de l'ensemble des hôpitaux du pays.
Alors, docteur, on se souvient qu'au mois de décembre dernier, le Premier ministre Matata a lancé un programme destiné à construire, réhabiliter et équiper environ 5400 établissements sanitaires sur toute l'étendue du pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bien, je pense que vous êtes en train probablement parler de ce que nous appelons chez nous le PES.
C'est-à-dire?
Le PES, c'est le projet d'équipement des services de santé dans notre pays, qui est un programme du gouvernement. En fait, en réalité, c'est un programme qui va consister à équiper et réhabiliter 200 hôpitaux sur les 420 que nous avons dans le pays et 1000 centres de santé qui sont répartis dans l'ensemble des provinces du pays. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes au point où les travaux de réhabilitation et d'équipement ont déjà commencé. Pour le moment, nous avons, disons que le gouvernement a déjà décaissé des fonds pour équiper et réhabiliter la moitié de ces structures-là. Nous avons un budget qui est de 85 milliards de francs congolais, dont la moitié a déjà été dépensée. Et nous avons les équipements qui sont entreposés ici à Kinshasa. Il y en a qui sont entreposés à Lubumbashi et à Goma. À Kinshasa, c'est pour le Bas-Congo, pour Kinshasa et le Bandundu et les deux Kasaï. Vous avez des équipements qui entrent par le Katanga et d'autres par Goma pour les provinces de Trois Kivu, donc le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu et la province orientale.
Alors, parlons de l'hôpital du cinquantenaire qui a été récemment inauguré. Docteur, cet hôpital fonctionne-t-il déjà?
Ben, il a été inauguré. Ça veut dire qu'il est déjà fonctionnel.
Si on y va, on peut y trouver des malades.
Le premier malade.
En train d'être soigné.
Le premier malade sera reçu le 4.
Le 4 avril.
Dans deux ou trois jours.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cet hôpital, combien a-t-il coûté? On dit qu'il est ultra moderne. Décrivez-le nous un peu.
Bien, en termes de coût, ça avoisine les 100 millions de dollars. En termes de coût, il est franchement ultra moderne. Il comprend tout l'équipement pour lequel on a l'habitude d'expatrier les malades à l'extérieur du pays. C'est un hôpital de niveau tertiaire. Ça veut dire que c'est le plus élevé qui puisse exister dans un pays. Et donc, il comprend plusieurs services, vous en avez parlé. Et c'est des services qui sont pourvus du matériel de très haute technologie.
Alors, nous allons à cet effet prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Je suis à Bukavu au Sud Kivu. À mon avis, je pense que le gouvernement s'est focalisé seulement à la réhabilitation de l'hôpital du 59 pour des visées propagandistes, oubliant qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'infrastructures sanitaires de l'État qui manquent même de lits de malades, alors que c'est en province où l'on trouve des vulnérables nécessitant les soins de qualité.
Réaction, docteur.
Alors, ma réaction, elle est simple. Le gouvernement n'a pas oublié les autres hôpitaux. Le gouvernement travaille sur les trois niveaux d'hôpitaux qui existent. Nous avons les hôpitaux des niveaux tertiaires, dont fait partie l'hôpital du cinquantenaire. En dehors de ça, nous avons les cliniques universitaires. C'est aussi des hôpitaux à vocation tertiaire, même si on a encore des petits problèmes à ce niveau-là. Et puis, il y a des hôpitaux de référence secondaire. Ici, chez nous, dans la ville de Kinshasa, nous avons l'hôpital général et les cliniques Galiema, sur lesquels on travaille aussi. Mais le gouvernement travaille aussi sur les hôpitaux de niveau primaire. Les niveaux primaires, c'est un peu tous les hôpitaux que nous avons dans les territoires. Si on est ici à Kinshasa, on peut citer l'hôpital de Kisenso, de Matete, ça c'est le niveau primaire. Et c'est ce lot-là qui constitue les 200 pour lesquels déjà une bonne partie d'équipement est dans le pays.
Et donc, ce n'est pas pour des raisons propagandistes, comme il le dit.
Pas du tout.
Alors, docteur, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que 100 millions de dollars consacrés à la réhabilitation de l'hôpital du cinquantenaire auraient pu en réhabiliter plusieurs autres en province, dans les territoires, et voire même ici à Kinshasa?
Oui, je vous ai dit que, je vais répéter ce que je vous ai dit. 100 millions de dollars, ça a été consacré à l'hôpital du cinquantenaire. Il y a du travail qui est en train de se faire aussi au niveau secondaire. Par exemple, pour le moment, il y a des travaux qui se font déjà sur la clinique Galiema. Je crois que tous les appareils d'imagerie médicale d'Ingaliema sont déjà sur place. Là, je parle d'un scanner, je parle aussi de l'IRM, qui est arrivé il y a deux ou trois jours pour Galiema, mais aussi de tous les appareils pour la dialyse, pour faire la dialyse. Tout est sur place ici.
Voilà, Joseph, allez-y.
Et en plus de ça, je répète ce que j'ai dit, en plus de ça, il y a les 200 hôpitaux dans nos villages, dans nos territoires, qui sont aussi en cours de réhabilitation et d'équipement.
Merci docteur Hippolyte Kalamba. Et Joseph Kibangula, vous êtes président de la Ligue des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Là, nous parlons d'abord nous faisons un état des lieux sur les hôpitaux publics en RDC. Docteur Kalamba a dit que la vétusté, les problèmes d'infrastructure, les problèmes que connaissent ces hôpitaux sont pratiquement liés à l'histoire aussi du pays. Comment vous analysez cette situation?
Oh, merci. Merci, monsieur le journaliste. En partie, c'est vrai ce que le docteur Kalamba vient de dire, parce que notre pays, depuis son accession à l'indépendance, nous avons connu beaucoup de problèmes d'ordre politique, des guerres pour ne pas les citer. Mais il faut reconnaître une chose, parce que avant l'indépendance, nous avons eu des infrastructures quand même qui avaient répondu à l'image et aux besoins de santé de la population. Et il faut compter à partir de l'événement de l'accession de notre pays à l'indépendance, avec toutes les structures hospitalières qui nous ont été léguées par les Belges. Il faut voir dans quel état ces structures-là existent aujourd'hui. Et nous, lorsque nous faisons l'analyse pour comprendre et connaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, nous mettons tout cela dans les comptes de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance.
Au niveau de l'État.
Au niveau... Bon, l'État, c'est un peu exagéré, mais au niveau de notre système sanitaire, donc au niveau du ministère de la Santé publique, parce que ce qui gère les institutions hospitalières, ce n'est pas l'État d'une manière globale, ce sont des individus qui sont affectés pour la gestion de ces structures hospitalières. Mais il faut reconnaître aussi, lorsque on nous a laissé des hôpitaux par la Belgique,
nous avions des structures qui étaient acceptées et qui répondaient aux normes à cette époque-là. Mais malheureusement, toute la période de la Deuxième République jusqu'aujourd'hui, on n'a pas songé à réhabiliter ou à consolider la réhabilitation de ces structures hospitalières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance du système sanitaire, les hôpitaux ne font que tomber dans le gouffre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons rencontrer un seul hôpital qui répond aux normes. D'ailleurs, je devais même commencer par féliciter le chef de l'État pour avoir l'idée de réhabiliter l'hôpital du cinquantenaire qui aujourd'hui donne l'image d'un pays qui, à l'époque, parce que tout le monde, même vous le savez, on a toujours dit que même les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Mais dans quelle structure hospitalière? Le même structure hospitalière que nous avons aujourd'hui, mais qui sont dans un état piteux de délabrement. Donc, moi, tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre système hospitalier, dans notre système sanitaire, dans la gestion des hôpitaux particulièrement, vous avez évoqué les cas de la clinique quinoise et de l'hôpital général Mamaemo, vous pouvez compter combien de fois ces hôpitaux ont reçu des dons du gouvernement et qu'ils sont dans ces mêmes états tels qu'ils sont aujourd'hui.
Sans compter les dons des partenaires.
Sans compter les dons des partenaires. Et où vont ces dons-là? Pour réhabiliter l'hôpital, pour renforcer la capacité d'accueil, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer. Quand vous regardez la clinique quinoise, qui est à côté de là où moi je travaille, mais vous allez la comparer à quelle institution publique de l'État? Ça ne donne même pas l'air d'un hôpital qui doit recevoir les malades et qui ce malade-là qui doit espérer d'en sortir très satisfait. Voilà un peu, moi je résume tout ça dans la mauvaise gestion, dans la mauvaise gouvernance.
Et dans tout ça, l'État a laissé faire, par l'impunité évidemment. Et
effectivement, dans les secteurs de la santé, il y a l'impunité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Bon, il y a ceux qui gèrent les hôpitaux, ils sont connus depuis très longtemps, qui commettent des gaffes, ou qui détournent les fonds, ou qui gèrent très mal. Mais au lieu de les sanctionner, on les change tout simplement de poste. On les envoie ailleurs. Et là où ils vont, c'est la même situation qui revient. Donc c'est pour dire qu'il y a l'impunité dans les systèmes national de la santé.
Chimanga nous écrit de Kisangani en province orientale. Chez nous, ici à Kisangani, le scanner n'a jamais existé. Le meilleur chantier qui devait abriter l'hôpital moderne CTH s'est transformé en un camp militaire. L'actuel hôpital appelé moderne est logé dans des maisons prêtes à habiter, conteneurs. Tout ce qui était construit en matériaux durables par Mobutu est négligé au détriment de la population, comme si ces hôpitaux étaient sa propriété privée. Joseph Kibangula, qu'est-ce qui fait, vous avez parlé de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion, mais il y a quand même de ces infrastructures qui ont gardé, ne fût-ce qu'en apparence, une certaine beauté, une certaine qualité qu'on peut réhabiliter, mais on ne le fait pas.
Mais vous savez très bien que l'apparence trompe. Et quand la population vient vers le professionnel, vers les soignants, vers le médecin, s'il faut le dire, mais il ne vient pas parce qu'il y a la beauté de bâtiment.
Il vient plutôt pour la qualité des soins.
Pour la qualité des soins. Et la qualité des soins, à ce que je sache, regroupe trois notions fondamentales. Il y a les structures, il y a les procédures, il y a les résultats. Ça veut dire quoi tout ça? Les structures, c'est-à-dire ce que vous avez dit là-bas, il faut qu'il y ait un reflet, la beauté des bâtiments, l'embellissement des bâtiments, l'intérieur comme à l'extérieur. Et il y a les procédures. Les procédures, ce sont des actes que nous posons. Nous allons poser les actes avec quoi si vous n'avez pas le moyen nécessaire pour le faire. Et le résultat, parfois nous sommes impuissants devant les situations qui nous arrivent parce que nous manquons même le minimum pour faire les soins. Voyez tout ça. Alors, il faut pas parler de la qualité des soins pour parler, mais il faut que toutes ces trois conditions soient réunies pour qu'on parle de la qualité des soins.
Merci. Docteur Jean-Baptiste Sondji, vous êtes spécialiste en santé publique et ministre honoraire de la Santé. Nous faisons là l'état des lieux des hôpitaux publics. Quelle est votre réaction?
Docteur Sandji? Visiblement, on a perdu Docteur Sandji. La réalisation va tenter de le retrouver. Docteur Hippolyte Kalambay, Joseph Kibangula a évoqué la mauvaise gestion et l'État qui laisse faire.
Voilà. Je pense que il y a deux façons d'aborder le problème. Monsieur Joseph a abordé le problème en termes de quelqu'un qui est en train de se plaindre sur ses propres malheurs. Moi, je voudrais vous montrer, et je l'ai fait, que le gouvernement est en train de faire des efforts énormes pour que nous puissions sortir de ces situations. Et c'est du concret. Vous l'avez vécu avec l'hôpital du cinquantenaire. Moi, je vous dis que la première commande des équipements que le gouvernement a fait, ça fait 136 conteneurs de 40 pieds. Et si vous pouvez aller dans les entrepôts de l'UNICEF aujourd'hui, ils sont pleins à craquer sur fond du gouvernement. Ce programme-là, il comprend non seulement l'équipement, mais aussi les réhabilitations et les constructions. Il ne comprend pas que les réhabilitations et les constructions et les équipements, il y a aussi l'approvisionnement en médicaments. Chaque centre de santé, chaque hôpital, dans le paquet des 200 hôpitaux et de 1000 centres de santé, va recevoir les médicaments. Il comprend aussi un programme de renforcement des capacités, notamment la formation sur toutes les questions de gestion dont il a été question. Pour vous donner une idée, pour les hôpitaux de niveau primaire, le matériel acheté, c'est un matériel pour remplacer tout l'équipement qui existe dans l'hôpital. Ça veut dire quoi? Toute la salle de consultation est remplacée. Toute la salle, le laboratoire est remplacé. Toute la salle d'opération est remplacée. La salle d'accouchement est remplacée. 50 lits hospitaliers supplémentaires. En dehors des médicaments qui sont donnés et des formations pour le personnel pour qu'il arrive à bien gérer. Et donc, moi, je suis en train de voir ce qui est en train de se faire. Je sais qu'il y a eu des problèmes dans le passé, mais aujourd'hui, on est dans un système de modernisation des infrastructures. C'est cela le fait, aujourd'hui.
Et il faut partir du passé pour améliorer l'avenir. Mais est-ce que Dr Sandji est en ligne? Dr Sandji, vous nous suivez?
Oui, je viens de vous suivre. J'ai été coupé tout à l'heure, là, oui.
Voilà, nous faisons l'état des lieux des hôpitaux publics en RDC. Quel est votre point de vue?
Les hôpitaux, vous savez, les hôpitaux publics, pratiquement depuis 60, depuis que les Belges sont partis, il n'y a jamais eu une véritable politique de mise à l'état de l'université, et plutôt des hôpitaux. D'ailleurs, rappelez-vous, les 10 premières années qui ont suivi l'indépendance, il n'arriverait jamais un président Joseph Kasavubu ou le président Cyril Alula, même Mobutu, d'aller faire soigner les membres de sa famille en Europe. Parce que ici, nous avions tous les hôpitaux, et au sommet des hôpitaux, dans tous les pays du monde, c'est les cliniques universitaires. Parce que c'est là qu'il y a la recherche, c'est là qu'on a reçu la formation, et dans tous les pays du monde, les institutions les mieux équipées sont toujours d'abord les universités. Mais maintenant, quand vous prenez les hôpitaux, les autres hôpitaux qui sont les hôpitaux généraux, l'État n'y a jamais... À l'époque coloniale, je me rappelais que nous avions, la colonie consacrait 12% de son budget à la santé publique. Et à ce moment-là, la population en 60 n'était que de 12 millions d'habitants et le PIB par habitant était de $400 par tête d'habitant. Donc le budget était conséquent. Aujourd'hui, avec près de 90 millions d'habitants, le budget est de 3%. Et quand vous regardez globalement, la production du Congo d'aujourd'hui, elle correspond pratiquement à sa production de 60. C'est-à-dire qu'avec les mêmes richesses, nous sommes obligés, alors qu'avant nous les partagions à 12 millions, mais avec quantité de richesses, nous sommes obligés de les partager à 90 millions, mais en plus de ça, le budget qui était consacré de 12% est descendu à 3%. Donc avec ça, c'est pratiquement impossible de faire une politique de santé convenable.
Alors, mais docteur, vous avez suivi docteur Kalambay qui pense qu'il faudrait, ne faudrait pas s'apitoyer sur son sort, mais plutôt voir ce qui est déjà en train de se faire. Il a notamment évoqué l'hôpital du Cinquantenaire.
Non, l'hôpital du Cinquantenaire, je maintiens, je t'invite et je crie, c'est un éléphant blanc.
Et pourquoi?
Pourquoi un éléphant blanc? D'abord, nous avons dans l'histoire l'expérience de l'hôpital général Mamayemo. Vous savez que lorsque les Américains sont venus travailler ici, ils ont exigé qu'on mette les ressources nécessaires pour que cet hôpital fonctionne. Vous savez combien l'État consacré pour le fonctionnement de cet hôpital? 50% du budget de l'État congolais. Un hôpital comme celui-là, qu'on vient de créer ici, son coût de fonctionnement est très élevé. Et si on veut que les Congolais puissent bénéficier des soins de qualité, l'État doit subventionner, parce qu'il n'y a aucun Congolais qui est capable de payer. J'ai une nièce qui est aujourd'hui, qui a fait une maladie cérébrale, qui a une insuffisance rénale. Eh bien, vous savez, elle est hospitalisée aux soins intensifs en Galima, mais elle fait la dialyse à l'hôpital général de Kinshasa. La dialyse revient à 250 par séance de dialyse. Elle a 3 séances par semaine. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de Congolais qui peuvent avoir ce rythme de soins? J'ai vu encore dans cet hôpital, on a vu quelqu'un qui avait l'air de se vanter, dit voilà, nous avons un caisson hyperbare. Mais aujourd'hui, la première cause de mortalité des Congolais, c'est le paludisme. Nous sommes le deuxième pays qui, au point de vue mortalité, après le Nigeria. Il y a des 50 des milliers de gens qui meurent du paludisme. L'État va dépenser 6 millions de dollars pour une question hyperbare. La question hyperbare, habituellement, notamment, on l'utilise chez les plongeurs. Lorsque les gens qui ont plongé dans l'eau, lorsqu'ils remontent trop vite, parce qu'en remontant trop vite, il y a des bulles de gaz qui se créent, ils ont des embolies gazeuses. Pour éviter ces embolies gazeuses, on les met dans une question hyperbare de manière à ce que progressivement... Mais chez nous, ici, la question hyperbare va servir à ça. Vous avez un cas de malaria, vous allez mettre le paludisme, alors que les études ont démontré que le traitement d'un cas de paludisme simple, ça coûte 1 dollar. Ça veut dire qu'avec l'argent qu'on a, les 6 millions qu'on a investis pour cette question hyperbare, c'est 6 millions de malades de malaria simple qu'on aurait pu soigner. Donc, personnellement, cet hôpital, d'ailleurs, le fait même de voir que 50 ans après, nous avons 6 000 médecins, qu'on soit obligé de faire venir des Indiens, c'est un recul, ce n'est pas une avancée. Ça veut dire quoi? On a construit un hôpital dont on n'a pas prévu qui devait s'en occuper. Est-ce qu'on a formé, envoyé des Congolais formés? Alors, vous, un État peut-il consacrer ses dépenses pour, sans avoir prévu le fonctionnement, ne fût-ce que par rapport à ses nationaux? Moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. Et cet hôpital, vous allez voir, que d'ailleurs, maintenant, je pense que s'il fonctionne, c'est suite à un crédit qui a été avancé par l'État indien, probablement. Donc, je crains fort que, malgré le tapage qu'on est en train de faire, cet hôpital ne fera pas long feu. Et puis, il y a des exemples sur le terrain. Vous prenez l'hôpital de le basketteur Mutombo. Mais il est en difficulté, pourquoi? Alors qu'il a mis de l'argent. Parce qu'il se rend compte que les soins de qualité ont écoute. Or, il se fait que le peuple congolais n'est pas capable de se payer le coût de soins d'un certain niveau. Et c'est pour cela que, pour le moment, cet hôpital est en difficulté.
Merci.
Les Chinois nous ont donné un hôpital que le Congo n'a pas été capable de gérer correctement. Alors, je vois
merci,
par
docteur.
Quel miracle cet hôpital de Cinquantenaire va-t-il être géré.
Merci, docteur Sondji. Joseph Kibangula, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Patrick Assema depuis Kinshasa dans la commune de Njili. Pour améliorer les conditions de vie des Congolais en général et dans les secteurs de santé en particulier, à mon avis, il faut préalablement mettre l'homme au centre des intérêts. Par conséquent, il faut impérativement améliorer les conditions salariales du personnel de santé. L'inverse serait vouloir une chose et son contraire à la fois.
Voilà, mettre l'homme au centre. On ne peut pas parler des infrastructures sans parler de l'infirmier qui est l'un des personnels les plus importants dans la chaîne des soins. Joseph Kibangula, vous êtes président de la Ligue des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Quelle est la situation de l'infirmier aujourd'hui en RDC?
Secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo. Bien, écoutez, je voudrais d'abord... de donner une lumière sur ce que le docteur Hippolyte a
Hippolyte
dit.
Kalambay.
Oui, parce qu'il a dit que je suis venu présenter mes propres malheurs.
je crois que il ne faut pas que le docteur Hippolyte puisse dire parler de cette manière-là pour se faire une conscience tranquille. Lui et moi, nous travaillons dans le même secteur, dans le même ministère.
Vous vivez les mêmes réalités.
Nous vivons les mêmes réalités qu'il connaît fort bien. Alors, il ne peut pas dire ici, devant votre micro, que je suis venu présenter mes malheurs. Au contraire. Alors, il est conscient. Je crois que c'est peut-être une façon d'échapper à la réalité de ce que nous vivons. Bon, par rapport à la question que vous venez de poser, les infirmiers de la République démocratique du Congo, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, j'ai peur maintenant que le docteur puisse dire encore que je présente mes malheurs. Nous sommes les mal-aimés de ce pays.
Pourquoi?
Parce que il n'y a personne, personne alors, tous les gouvernements qui se succèdent, personne n'a regardé ce que l'infirmier est, comment il est formé, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, et qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution dans les systèmes sanitaires de notre pays. Alors, par rapport à sa condition de vie, bon, je ne sais pas expliquer ça très clairement, mais nous sommes les mal aimés, je le répète, parce que lorsque vous regardez les salaires que touche un infirmier, à Kinshasa, ça peut encore aller parce qu'on se contente de 30 000 francs congolais par mois.
Sans compter que vous tripotez les malades qui sont déjà malades, il faut en plus les presser, ils doivent donner quelque chose, s'ils n'ont pas d'argent, vous ne les touchez pas, ainsi de suite.
Bon, ça ne vient pas des infirmiers.
Et ça vient
c'est un système qui a été installé. Alors, prenez en considération encore l'infirmier qui est dans l'arrière-pays. Il touche combien? 3 000 francs de prime. Et les 3 000 francs qu'il touche là, il y a encore un système qui est mis en place pour récupérer d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'il y a des infirmiers qui ne touchent rien, absolument rien. Donc nous sommes les misérables de notre système de santé. Et chaque fois que nous revendiquons, parce que là c'est la matière syndicale, lorsque nous revendiquons, on ne nous entend pas. Voilà, aujourd'hui j'ai des exemples qui viennent des Mahagi. J'ai des exemples qui viennent des Kasaï oriental, où les infirmiers, ça fait 3 mois, ils ne sont pas en possession de leur prime de risque. Imaginez-vous les sorts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel type de soins vont-ils donner? C'est ça le problème. Donc, je répète, nous sommes les mal-aimés de ces gouvernements, malgré nos cris, malgré nos revendications. On n'a jamais regardé le problème des infirmiers avec un œil attentif.
Gaspard Kalombe de Moba Okatanga, je doute fort que les membres du gouvernement et leurs agents tombent aussi malades. Notre territoire compte au moins 350 agents sanitaires, il n'y a que 16 agents, tout au plus qui touchent leur salaire. Quant à nous autres, le gouvernement nous donne une prime de 8 000 francs, voilà. 8 000 à 18 000 francs, et les bâtiments sont totalement ignorés. Docteur Hippolyte Kalambay, les infirmiers sont les mal-aimés. Notamment ce gouvernement, on prend en compte que la situation des médecins et les infirmiers sont abandonnés.
Bien, avant que je n'aborde cette question, je voudrais, si vous le permettez, monsieur le journaliste...
Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes.
Oh oui, revenir d'abord sur ce qu'a dit Dr Sondji, pour vous informer que le budget de la santé pour 2014, c'est 7,14% de l'ensemble du budget national, ce n'est pas 3%. Ceci est important, parce qu'il a parlé de 3%. 8% de l'ensemble du budget. Et alors, c'est une augmentation progressive. Nous espérons que d'ici là, nous allons atteindre le niveau des engagements des chefs d'État à Abuja, qui est de 15%.
Alors, la situation des infirmiers, les mal-aimés.
Alors, les infirmiers ne sont pas les mal-aimés. Vous n'avez pas de soins sans infirmiers, tout le monde le sait. Les infirmiers ont leur place dans l'organisation des services de soins. Ça, c'est clair. S'il y a des infirmiers qui ne sont pas payés, ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des médecins qui ne sont pas payés.
Mais du moins, quand les médecins crient, on les entend plus facilement que les infirmiers.
Et on résout facilement leurs problèmes.
Non,
nous avons des preuves.
Je ne pense pas.
Oh là là.
Je ne pense pas parce que les infirmiers, si je dois revenir à ce qui s'est passé l'année passée, les infirmiers ont crié. Et le gouvernement les a entendus. Il y a eu quand même des augmentations substantielles
Joseph Kibangula s'étonne, il vous regarde d'une façon très étonnée. Allez-y, docteur.
Oui, je le dis parce que...
vous aurez la parole,
Joseph. Que nous avons obtenu?
Joseph Kibangula, calmez-vous, vous aurez la parole, vous allez répondre. Docteur Hippolyte Kalambay, allez-y.
Je sais de quoi je parle. Il y a eu les accords de Fatima l'année passée. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement, bien que c'était en plein exercice budgétaire, a fait un effort pour pouvoir augmenter l'enveloppe qui était destinée à cette catégorie professionnelle d'environ 1 milliard de francs congolais chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Cette enveloppe est reconduite dans les budgets actuels, en plus du fait que, je voudrais ajouter, en plus du fait que pour cette catégorie professionnelle, j'ai les chiffres avec moi, c'est environ 20% d'augmentation de rémunération pour cette année-ci. Ça, c'est pour vous dire que quand ils crient, le gouvernement est attentif à leurs cris.
Docteur,
ils ne sont pas abandonnés.
Docteur Sondji, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasai Occidental.
Gaston Mboyo Bimbia, expert en santé publique à la ville de Kananga, province du Kasai Occidental. Tous les projets sanitaires, que ce soit les financements, la réhabilitation, l'amélioration de la qualité des soins de santé primaires et autres, échouent car il n'y a pas la notion de la participation communautaire.
Docteur, comment vous lui répondez en reliant la participation communautaire au rôle que doivent jouer les infirmiers qui sont un des maillons importants aussi de la chaîne des soins?
Vous savez, la participation communautaire est évidemment quelque chose de fondamental, mais... La participation d'un pauvre, même si pour le pauvre c'est un effort important, ne peut pas arriver à régler tous les problèmes. Parce que quand vous voyez les autres pays, occidentaux par exemple, c'est vrai, il y a une participation communautaire. Mais comment? Mais par les mutuelles. Lorsque vous avez par exemple un salaire de 2000 euros, dans les 2000 euros, vous avez dû cotiser par exemple 500 euros par mois pour le service de santé. Donc, un peuple, une communauté pauvre ne peut pas mettre à disposition, même si elle contribue de manière volontaire, la pauvreté ne fait pas de vous des riches. Or, la médecine de qualité a un coût. Donc, maintenant, en revenant au problème des infirmiers, il est un fait que l'exercice de la profession médicale est un exercice, est un travail d'équipe. Elle contient dans son sein plusieurs catégories de gens. Vous avez les pharmaciens, vous avez les médecins, vous avez le personnel infirmier, vous avez les kinésistes, vous avez les laborantins. Il va de soi que pour que ce travail fonctionne en harmonie, il faut nécessairement qu'il y ait un équilibre dans les rapports des salaires. Mais comme je viens de le dire aujourd'hui, que ce soit le médecin, que ce soit le kinésiste, que ce soit le pharmacien, que ce soit même l'enseignant, dans notre pays, il n'existe pas une catégorie de gens dont on peut dire que qu'ils sont payés à la hauteur de ce qu'ils devraient gagner comme argent. Alors, il est vrai que sur le plan de problème peut-être des infirmiers et peut-être les autres, ce problème est plus persistant. D'abord, il faut reconnaître, il faut voir que les médecins sont moins nombreux que les infirmiers. Dans un environnement où la production ne suit pas l'évolution, ces problèmes vont nécessairement... Il va de soi que les salaires qu'on donne au personnel infirmier, même aux kinésistes, même aux autres, et même aux enseignants, ça, ce ne sont pas des salaires. Et c'est pour cela, moi, je pense que le gouvernement devrait... Et les infirmiers ne devraient pas faire leurs revendications en fonction des médecins. Il ne faut pas le travail de médecine en fonction des médecins. Ils ont une carrière à eux, qui est une carrière particulière. Il y a des kinésistes qui ont leur carrière à eux. Ils doivent effectivement réclamer leurs affaires, mais pas forcément en fonction des médecins. Mais l'élément le plus important, c'est que ces problèmes qui sont des problèmes récurrents sont la résultante du fait que la production du pays... On fait tout la politique, parce que quand vous regardez très bien, on essaie de répartir la misère. Mais le pays ne produit pas. C'est-à-dire qu'on ne met pas le pays dans une perspective de production. Je suis heureux d'apprendre du docteur Kalambay que le budget de cette année-ci est de 7%. Bah, c'est une très bonne chose. Si cette tendance se confirme, mais je souhaite que cette tendance, si elle se confirme, ça ne peut pas être pour construire des hôpitaux comme du cinquantenaire. Je pense que quand vous avez des ressources financières,
merci,
vous devez hiérarchiser les problèmes. Merci. Et à partir du moment où le premier problème, c'est par exemple la lutte contre le paludisme, vous devez d'abord mettre les ressources pour, après avoir maîtrisé ce problème-là, le second vient et les ressources, docteur, vous le mettez à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que les infirmiers ne doivent pas se considérer comme les mal-aimés, mais qu'il y a un problème réel, mais qu'ils ne sont pas les seuls.
Merci, docteur Sonji. Joseph Kibangula, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Tout à l'heure, vous vous étonniez de ce que docteur Kalambay dise, que vos revendications ont été prises en compte.
Pas du tout, mon frère journaliste, parce que moi-même, j'étais négociateur. Et je sais ce que nous avons obtenu. Il parle de l'enveloppe de 1 milliard. Ce n'était pas l'enveloppe de 1 milliard destinée aux infirmiers. Nous étions là-bas, et les infirmiers, et les administratifs. Toutes les catégories confondues, on nous a donné les 1 milliard pour dire que chaque mois, et c'est ça les clauses de notre accord, chaque mois il y aura augmentation de 1 milliard. Mais ça n'a pas été.
Jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour. On a eu le 1 milliard une fois et point très au mois d'octobre. Alors, il ne peut pas dire que nous avons commencé à toucher les 1 milliard chaque mois, comme si notre salaire était en train d'augmenter régulièrement chaque mois. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, ce qu'il a dit là-bas. Et je reviens sur ce que le docteur Sonji dit, qu'on ne peut pas revendiquer en fonction de médecins. Ça, c'est le langage de médecins de ces pays. Nous, on ne revendique pas en fonction de médecins. Mais lorsque vous regardez les corps professionnels infirmiers, il y a des personnes qui ont le même titre que le médecin sur le plan académique. Alors, on ne peut pas revendiquer pour avoir les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions de rémunération parce qu'on s'appelle infirmier. Si je parle de mal-aimés, c'est parce que les problèmes des médecins se résolvent de manière très facile.
Alors,
s'il vous plaît.
Terminez
oui,
très rapidement.
Ça se résout facilement. Alors que si c'est nous qui revendiquons les problèmes, on nous fait marcher comme de petits enfants parce qu'on considère que nous ne méritons pas ce que nous voulons obtenir du gouvernement.
Alors, docteur Hippolyte Kalambay, pour conclure, prenons dans la globalité cette affaire des infirmiers, la réhabilitation des hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses marchent normalement, d'après vous, en guise de conclusion?
Oui, en guise de conclusion, je voudrais calmer les uns et les autres. Je suis en train de parler ici en connaissance de cause. Je suis quand même le directeur en charge de la planification de la santé dans ce pays. Je suis en train de vous dire des choses que nous sommes en train de faire dans ce pays, dans le secteur de la santé. J'ai entendu Dr Sonji qui est revenu plusieurs fois sur le paludisme. Il a raison, c'est la principale cause de mortalité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Mais ce que je voudrais dire, je l'ai dit au départ et je le répète, c'est que ce niveau-là où le paludisme est soigné n'est pas négligé. Nous avons environ 8000 aires de santé qui doivent contenir chacun un centre de santé. Et je vous ai dit que nous avons déjà, sur ce programme, pour la première année, 1000 qui sont déjà suffisamment avancés en termes de réhabilitation et d'équipement.
Et donc il faut espérer.
Il faut espérer.
Voilà. Docteur Sonji, conclusion.
La conclusion que je veux dire, c'est que l'état de délabrement dans lequel se trouvent les infrastructures de santé sont la résultante d'une négligence qui date de longtemps. On ne peut pas accuser que c'est ce gouvernement qui a cette responsabilité-là. Autre chose que je peux dire, c'est que le problème des infirmiers, je pense que nous ne sommes pas les premiers à avoir créé l'organisation médico-sanitaire entre les infirmiers et les médecins. Et que il faut le responsable des infirmiers doit se rappeler que de 60 jusqu'à 65, ce conflit n'existait pas parce que les salaires étaient correctement payés.
Merci, docteur. Merci, docteur Sonji. Joseph Kibangula, conclusion.
La conclusion est que je demande à ce que les systèmes sanitaires nationaux ne soient plus trop médicalisés. Il faut sanitariser les systèmes pour que tous les corps professionnels puissent se retrouver et puissent être impliqués, intégrés dans la gestion pour que les choses marchent.
Merci Joseph Kibangula, merci à vous docteur Hippolyte Kalambay, merci également à docteur Jean-Baptiste Sonji. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Matt et Samuel Kachak qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la technique Bob Landou et Mimi Kindou, présentation et coordination Alain Yorong Mouchinj. Vous nous avez suivis, merci de votre attention.